Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bienvenue sur ce 25e épisode de Popol. Et pour ce 25e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Laure Cazier. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Léa, bonjour à toutes.
Comment vas-tu?
Parfaitement bien, je suis très heureuse de participer à, à ce nouvel épisode.
Eh bien écoute, ravie aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît?
Alors je m'appelle Marie-Laure, je suis militante socialiste de longue date. Ça devient rare aujourd'hui, mais donc, je suis fière de le dire. Je suis élue depuis peu, depuis les dernières municipales du 18e arrondissement de Paris, et je suis chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Dans ma vie professionnelle, je suis agent public, je gère un budget dans un ministère, et en parallèle, j'ai repris depuis un peu plus d'un an mes études musicales. Donc, dans un conservatoire. Ça représente tout ce que j'aime faire dans ma vie. Et j'essaye de créer du lien entre tous ces aspects différents de ma vie.
Super, merci beaucoup Marie-Laure. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Claudine Cordani. Bonjour Claudine.
Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous, quatre.
Ravie de te recevoir. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Claudine?
Alors, je suis une Parisienne de 54 ans, anciennement journaliste, j'ai travaillé dans la presse pendant 30 ans. Aujourd'hui, je n'ai plus de travail, je suis au RSA. J'ai fait paraître un premier livre, je me suis auto-éditée. C'est un plaidoyer pour une justice digne de ce nom. Dans ce livre, je raconte mon combat, puisqu'en France, je suis la première mineure à avoir refusé le huis clos à ses violeurs. Le procès s'est déroulé en 1985. Donc, j'ai raconté dans ce livre mon parcours de combattante, de résiliente, de femme engagée en tant que personne, en tant qu'écoféministe. Voilà, je suis également artiste, je fais des collages graphiques. En fait, je fais plein de choses. Je fais tout ce qui m'intéresse et tout ce qui peut faire avancer la cause.
Et où est-ce qu'on peut retrouver la majeure partie de tes travaux, que ce soit tes travaux artistiques ou d'écriture aussi?
Alors, mon livre... Et pour l'instant, en vente sur le site bookelise.com. Mais ça ne va pas durer car j'ai une super agente littéraire qui s'appelle Julie Finidori, avec laquelle j'ai travaillé une nouvelle mouture, une version enrichie de mon plaidoyer. Et voilà, je suis en attente de voir ce qu'il va se passer du côté du secteur de l'édition. Et alors, pour les collages, avec la pandémie... Voilà, on va en parler tout à l'heure. Avec la pandémie, je n'ai pas pu encore exposer mon travail. Donc, j'ai fait énormément de collages, thématiques bien sûr, engagées, féministes, écoféministes. Enfin, je traite tout un tas de thèmes. Et je suis pressée de montrer ça à un public. Donc, j'ai des contacts. Hein, puis, j'attends le déconfinement pour pouvoir montrer ça. Mais j'en ai montré pas mal sur Twitter. Je communique beaucoup sur Twitter et voilà, de temps en temps j'en balance.
Super, merci beaucoup Claudine. Et enfin, nous avons aussi le plaisir de recevoir Elsa Grangier. Bonjour Elsa.
Bonjour Léa et bonjour Marie-Laure, bonjour Claudine.
Comment vas-tu?
Je vais très très bien, je suis ravie d'être parmi vous et encore très honorée de ces rencontres qui se crée grâce à toi, Léa.
Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Alors justement, je fais une petite transition sur les rencontres. Moi, je suis une femme amoureuse des rencontres parce que je trouve qu'elles déclenchent beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis directrice générale de l'ONG Ashoka, qui travaille principalement sur le champ de l'innovation sociale, à aider les entrepreneurs sociaux à faire en sorte que l'économie soit un levier pour un projet de société plutôt que de mettre la société au service d'un projet économique. Donc, je suis ravie, mais avant ça, je crois que je pourrais presque dire que je suis un peu une femme hybride. Alors, c'est très tendance de dire ça en ce moment, de dire que nous sommes hybrides, puisque j'ai été directrice marketing assez longtemps dans le numérique pour des grands groupes. J'ai également été journaliste aussi, je partage ça avec Claudine. Voilà, chroniqueuse au maternel pendant près de 4 ans sur France 5. Puis j'ai monté une boîte de production audiovisuelle pour faire des documentaires qui doivent parler, à mon sens, de sujets éminemment prégnants dans la société que sont les femmes, l'écologie, l'éducation. Et j'ai pu, grâce à ça, signer quelques séries avec France Télévisions et emmener surtout 310 enfants de 10 pays d'Europe, écrire la première déclaration européenne des droits de la planète et du vivant et faire en sorte de montrer que l'éducation, c'était vraiment le berceau de l'engagement citoyen. Voilà.
Et bien, génial. On a quand même un super beau line-up aujourd'hui pour ce 25e épisode de Popol. 25e épisode, donc épisode anniversaire. On va parler aujourd'hui de deux thématiques d'actualité. Nous allons d'abord parler des annonces qui ont été faites par le président de la République pour le plan de déconfinement progressif. Et nous parlerons, en seconde partie d'émission, de la lettre des généraux. Sans plus attendre, on va commencer par le premier thème. Jeudi dernier, le président de la République a annoncé un calendrier de levée des restrictions s'étalant du 3 mai au 30 juin. Après cette période, il souhaite ouvrir une grande concertation destinée à tourner la page de ce moment de la vie de la nation. La première étape commencera le 3 mai avec la levée des restrictions de circulation, que ce soit autour de chez soi ou entre les régions. Collèges et lycées pourront accueillir, comme prévu, la moitié de leurs élèves simultanément. La deuxième étape commencera le 19 mai. À cette date, le couvre-feu sera décalé à 21h, les terrasses des cafés et des restaurants pourront rouvrir, avec 6 personnes par table au maximum. Il en ira de même pour les commerces, les établissements culturels ou les établissements sportifs. Ces lieux devront néanmoins se soumettre à des jauges et protocoles spécifiques. La troisième étape du déconfinement commencera le 9 juin. Le couvre-feu doit alors être décalé à 23h. Les salles des cafés et des restaurants pourront rouvrir, tout comme les salles de sport. Une innovation majeure est alors censée entrer en application avec le recours au pass sanitaire. Enfin, la dernière étape du déconfinement est censée commencer le 30 juin, fin du couvre-feu, qui a promis Macron, après plus de 8 mois de restrictions. Les jauges dans les établissements recevant du public seront abolies, même si le gouvernement compte sur le maintien des gestes barrières. La participation à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes en intérieur ou en extérieur sera de nouveau autorisée sur présentation du fameux pass sanitaire. Le chef de l'État a néanmoins conditionné ces différentes levées de restrictions à la situation sanitaire dans chaque département. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que le président a fait preuve de suffisamment de clarté ? Et est-ce que vous pensez que ce calendrier est effectivement tenable ? On va commencer avec toi, Claudine. Que penses-tu de ces annonces ?
Comme les autres annonces, c'est une annonce de plus. Ce que je remarque, c'est que, en remontant un peu le temps, la France n'a pas été alertée par l'OMS. Alors, si je reprends les chiffres, les dates, l'OMS a alerté fin décembre 2019 sur des cas de pneumonie d'origine inconnue, venant probablement de Chine. On ne savait pas encore que ça s'était passé à Wuhan. Et en janvier 2020, l'OMS a informé le réseau mondial d'alerte sur le début d'une pandémie. Or, en France, nous avons eu, nous, des informations quelques mois après, c'est-à-dire 2-3 mois après. Déjà, je trouve qu'on a pris du retard et nous voyons le résultat aujourd'hui. Donc déjà, pour moi, premier gros plantage. Il y a d'autres pays qui se sont moins plantés que nous. Premier gros plantage. Ensuite, ce qui m'a beaucoup dérangé, alors évidemment, une pandémie, c'est un virus qui se promène partout. Ça n'est pas maîtrisable. Il n'y a pas une personne responsable de cela. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que je trouve qu'il a très mal géré ça depuis le début et que ça a continué. Est-ce que les personnes, parce qu'évidemment, comme vous toutes, je discute avec beaucoup de gens, ce qui est très dur, ce qui a été vécu de façon très dure, c'est les annonces intempestives, toujours au dernier moment. Personne ne savait comment s'organiser. Donc, en fait, ça a été un bordel général, un bordel organisé général. Et ça a pesé sur l'économie, ça a pesé sur le moral des gens, sur la santé mentale des personnes. Moi, personnellement, je m'en veux beaucoup de ne pas avoir su gérer. Parce que quand on est responsable d'une nation, quand on a cette responsabilité-là, on est censé mieux faire les choses pour le bien-être de toutes et tous, de s'entourer des bonnes personnes. Il est parti chercher Raoult, enfin, on se demande pourquoi. Pour moi, ça a été un peu du grand n'importe quoi. Alors voilà, encore une fois, il n'est pas responsable de ce virus, mais il est responsable de la façon dont il n'a pas géré la communication et on voit le résultat, quoi. Alors bien sûr, il faut continuer à se protéger. Évidemment, il faut respecter les gestes barrières. Un déconfinement progressif qui va mener à un déconfinement total à un moment, ça ne veut pas dire On recommence la vie d'avant, on fait n'importe quoi. Il faut rester centré sur ce problème de santé qui est très grave. Donc, il ne faut pas oublier qu'énormément de personnes en sont mortes, hein, malheureusement.
Et je te rejoins totalement sur le climat d'incertitude qui est parfaitement inacceptable, en fait. Hein. Je pense que, et ça, c'est quelque chose que je me tue à dire depuis le début, on peut comprendre qu'on ne sait pas, et comme tu dis, on ne peut pas remettre la faute sur le gouvernement de ce virus. Mais en tout cas, placer les citoyennes et les citoyens dans ce climat d'incertitude constant, comme tu le disais, avec des mesures qui arrivent à la dernière minute, des rumeurs de mesures constamment, enfin la communication autour de ça était, à mon avis, assez désastreuse, excessivement anxiogène. Parce que je pense que là où le pouvoir politique avait quand même la possibilité de faire quelque chose, c'était de créer un climat le plus rassurant possible, et ça n'a absolument pas été fait. Et là, c'est, à mon sens, là, la plus grande faute, très sincèrement, à mon avis. Marie-Laure, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ces annonces ?
Moi, je pense que les annonces d'un déconfinement progressif, c'est une perspective heureuse à titre individuel. Je pense que on est toutes et tous dans le même état. Enfin, ça dépend de notre situation, évidemment. Moi, je fais pas un métier qui est exposé, qui est en première ligne, mais je pense à toutes les personnes précaires, je pense à tous les métiers qui sont en première ligne. Et on sait que les femmes sont en grande partie dans cette situation-là. Donc, il y a quand même beaucoup de questions, malgré cette perspective heureuse, beaucoup de questions qui restent en suspens. Je suis assez d'accord avec ce que disait Claudine. On manque d'une lisibilité, et ça depuis plus d'un an, en fait. On a manqué d'une transparence sur l'information, on a manqué d'une transparence sur les perspectives. On a vu aussi, il y a quelques mois, il y a quelques semaines même, le président disait la vague de mars, on ne pouvait pas la prévoir, etc. Alors que des parlementaires ont montré des rapports disant que oui, en fait, il leur avait été remis un rapport indiquant qu'en mars, il y aurait une reprise de l'épidémie. Et rien n'a... Enfin, en tout cas, il y a des choses qui ont été faites, puisque ça fait un an qu'on est en confinement, couvre-feu, etc. Mais à mon sens, ce n'était pas suffisant. On n'a pas pris la mesure. Il y a eu un manque de courage politique pour moi. Et donc, en fait, c'est difficile de dire au gouvernement « Ah, tu aurais dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça ». On ne peut pas se placer dans cette situation-là parce que c'est une situation qu'on ne maîtrise pas, la situation sanitaire. Enfin, c'est quelque chose, c'est pas comme l'économie. C'est quelque chose qui nous échappe. Néanmoins, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est aussi qu'on ait un taux plus important de vaccination de la population avant de pouvoir rouvrir massivement les commerces, les lieux accueillant du public et les écoles aussi. Je suis quand même assez stupéfaite de voir qu'on rouvre les écoles alors que les personnels qui y travaillent ne sont pas vaccinés. C'est incroyable. Enfin voilà, ça me met très en colère parce que bon, dans mon entourage, j'ai aussi des proches qui sont instits. Et je me pose aussi la question, je comprends que le gouvernement, sa priorité, ce soit de lutter contre le décrochage scolaire, contre les inégalités scolaires. C'est quelque chose que je partage évidemment. Cependant, il y a une déconnexion entre le discours et la réalité. Si c'était vrai, Les professeurs, les enseignants, les instituteurs auraient été dotés de matériel informatique. Ça n'a jamais été évoqué, ce n'est pas le cas. C'est le cas dans les collèges qui sont sous la responsabilité des départements. Il y a eu des moyens qui ont été accordés pour des équipements informatiques. Dans les écoles, ce n'est pas le cas et c'est incompréhensible. Par ailleurs, la priorité est de lutter contre le décrochage scolaire. Alors pourquoi le ministère de l'Éducation nationale réduit les heures accordées au soutien scolaire pendant les deux semaines de vacances qu'on vient d'avoir? Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être vues comme des détails, mais en fait c'est des aspects concrets de la vie de tous les jours et du métier de l'enseignement qui ne sont pas évoqués dans le débat public. Donc voilà, ça montre bien, je trouve, les incohérences de cette politique de déconfinement. Et puis, voilà, ce qui manque aujourd'hui, je pense, c'est des précisions aussi sur le cadre légal du télétravail. On est dans un flou total. On dit la règle, c'est le télétravail, mais en fait, il n'y a rien qui contraint les employeurs. n'y a rien qui est opposable. Donc, enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est aussi, quid des dispositifs d'aide aux secteurs qui subissent la crise, au commerce, évidemment. Là, comme en fait le système d'aide est bimensuel, donc il y a des aides pour janvier, février, mars, avril, etc. Là, on tombe au mois de mai. Est-ce que les commerçants vont pouvoir avoir l'aide de mai ou est-ce que celle-ci va leur être sucrée ? Enfin, voilà, c'est tout un tas de détails, mais voilà, le diable se niche dans les détails. Alors, il faut y revenir et il faut en parler. Je pense que c'est important. De même pour le secteur culturel, on va pouvoir rouvrir certains établissements, mais ça dépend des seuils de contamination par département, etc. Quid en fait des dispositifs pour aider les intermittents et les intermittentes par ailleurs, qui réclament la prolongation de l'année blanche. Pour l'instant, Roselyne Bachelot n'y est pas favorable. Ce plan de déconfinement, pour moi, il est davantage pensé pour des raisons économiques que pour des raisons sanitaires. Et je pense que c'est aussi une réaction de peur du gouvernement et du président Emmanuel Macron, d'une peur d'un sentiment de ras-le-bol généralisé à la veille des élections. Et je pense que c'est ça qui guide l'action gouvernementale aujourd'hui. Et je m'en désole.
Ah ouais. Ah ouais, c'est clair. Je suis assez d'accord avec toi. C'est aussi d'ailleurs ce qu'il a poussé à ne pas prévoir de confinement au mois de janvier. Hein. Sa cote de popularité a augmenté juste après. Enfin, évidemment, c'est un coup politique aussi, ça c'est certain. Elsa, toi, tu partages ces avis ?
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, bien dites, que je partage. Et puis, il y a d'autres choses avec lesquelles je suis un peu plus nuancée aussi, moi, sur le propos. Alors, bien sûr que quand on lit l'histoire un an après, c'est beaucoup plus facile de la revisiter et de se dire, ben voilà, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Il y a 66 millions en France, 67 millions de sélectionneurs pour l'équipe de foot. Et parfois, on aime bien aussi refaire les matchs. Mais je pense que quand on se retrouve confronté à cette situation-là, je ne suis pas sûre qu'on aurait pris d'autres, meilleures, moins bonnes. Enfin, il y a toujours une façon de voir les choses. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu l'histoire des masques, l'histoire des gestes barrières, l'histoire des jauges, on revient. Donc, il y a une forme de lassitude sur ce qu'on appellera de l'impréparation globale gouvernementale que maintenant on peut qualifier comme telle, ça c'est sûr. Et bien sûr, avec, oui, des fautes de quart indéniables en termes de communication. Et puis, on sentait aussi une dissension d'un point de vue gouvernemental. Vous n'étiez pas forcément tous raccord non plus sur la façon dont il fallait appréhender les choses. Maintenant, moi, ce que je vois aussi dans les annonces qui ont été faites, c'est que je partage ce que disait Marie-Laure, il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel. Et quand même, ça fait du bien aussi de se dire ça, parce qu'il y en a quand même suffisamment, il y en a assez, quoi. Je pense qu'on en a tous bavé depuis le début, qu'on est tous fatigués, qu'on voit l'été arriver, qu'on a envie de se retrouver les uns avec les autres. Évidemment, avec une couverture vaccinale, ça aussi, il faut bien rappeler qui devrait être efficiente, en fait, et pour toutes les populations concernées. Et effectivement, Marie-Laure met un point indéniable sur les personnalités qui sont directement confrontées à ce virus. Je suis comme toi, Marie-Laure. Moi, j'ai une sœur qui est enseignante et un beau-frère qui est enseignant. Ils n'ont toujours pas été vaccinés. Et pour le coup, ils passaient plus de temps à nettoyer les tables dans les salles de classe avec du gel hydroalcoolique et avec leurs élèves quand ils n'étaient pas en distanciel que justement parfois à prodiguer les cours et à faire en sorte que les gamins ne décrochent pas. Parce que ça aussi, ça va être, je pense que ça va laisser des traces sur les générations à venir sans tomber trop dans la dramaturgie parce que, étant maintenant au cœur de l'innovation sociale, j'ai plutôt tendance à me dire que voilà, il va falloir qu'on voit le verre à moitié plein aussi. Mais cette génération qui va entrer sur le marché du travail, elle va être sacrément ébranlée par tout ce qui s'est passé parce qu'elle a été déconnectée par parfois trop de connexions. C'est ça aussi le paradoxe aussi de ce qui s'est passé. Et effectivement, le décrochage scolaire, c'est un vrai, véritable enjeu majeur. D'ailleurs, Macron le disait il y a 2-3 semaines, quand il a de nouveau pris la parole, en disant que le défi du 21e siècle, ça allait véritablement être l'éducation. Et je crois qu'il a raison là-dessus, mais pas simplement sur les savoirs académiques, mais aussi sur les savoir-être aussi en société, parce que c'est ce que ça nous apprend aussi, cette crise à travers ça, c'est comment on va pouvoir être plus en solidarité les uns avec les autres, être plus au monde, avec une connexion suffisamment importante de travail en équipe, d'exercice même de cette façon de pouvoir agréger les choses les unes avec les autres. C'est pour ça que ce qui m'a beaucoup surprise et ce que j'aurais aimé voir, mais c'est mon côté un peu idéaliste, mais on ne se refait pas trop. J'aurais adoré qu'il y ait une convention citoyenne justement pour la gestion de la crise Covid. J'aurais trouvé ça assez intéressant qu'on fasse intervenir aussi des citoyens qui avaient certainement énormément de choses à apporter et d'éviter que ce soit un peu ces happy few en permanence, un comité d'experts qu'en plus, voilà, on contredit parce qu'il y avait Raoult dedans, il n'y a plus Raoult, après on ne sait plus qui parle, des frais ci, pas des frais ci. Enfin, on sent qu'il y a une dissension aussi énorme. Moi, je me dis un petit peu de nouveauté aussi, et si on ne veut pas donner l'impression que cette démocratie est mise à mal et qu'il y a un côté très autoritaire dans la prise de décision un peu imposée, eh ben, il faut savoir s'ouvrir aussi et casser ces représentations-là, parce que c'est ce que nous montre cette crise, clairement. C'est qu'il faut qu'on casse les représentations qu'on a vis-à-vis de l'exercice même du pouvoir. Et ce n'est pas un gros mot que de vouloir se mettre en danger vis-à-vis de ça. Au contraire, je trouve que prendre ce risque-là, c'est d'un courage exemplaire, et on a véritablement besoin de courage en politique à ce niveau-là. Et c'est pareil, c'est vrai que le télétravail, ça a été un tsunami. Et même les assureurs ne savent même pas ce qu'ils doivent assurer pour les télétravailleurs. Donc, c'est moi qui suis employeur, je suis de l'autre côté pour le coup. Je peux vous dire que c'est un casse-tête chinois. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Je vais le pratiquer aussi dans l'exercice même du télétravail. En France, aujourd'hui, il y a 5% quand on prend le code, les statistiques du télétravail classique hors Covid, on s'aperçoit qu'il y a 5% des télétravailleurs en France aujourd'hui. Avec le Covid, évidemment, vous imaginez que ça va être beaucoup plus et ça va pouvoir permettre de légiférer plus durablement, plus intelligemment. Donc, il faut aussi le voir comme une forme d'opportunité là-dessus. Je terminerai juste sur un point parce que vous l'avez dit, Claudine et Marie-Laure, et je souscris à 3000% sur vos dires. Évidemment qu'il y a un problème de transparence, mais moi, ce n'est même pas la transparence qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est le manque de sincérité. Je trouve que ça plus grave que l'absence de transparence, finalement. Je n'ai pas envie, moi, que le gouvernement soit transparent avec moi. Ce que je veux, c'est qu'il soit sincère, et quand il n'y arrive pas, qu'il me le dise aussi. Parce que quelque part, ça me donnera envie de participer beaucoup plus, à faire un effort un peu collectif. Et puis, la dernière chose sur laquelle je dirai un petit mot aussi, c'est... Oui, c'est que, bien sûr, je le disais en préambule, c'est facile de refaire le match un an après, mais il y a quand même un truc aussi, moi, qui m'exaspère, c'est l'absence d'effet d'expérience. C'est qu'il y a un moment, on en a eu quand même des confinements depuis le temps, on doit être un peu plus capable de les gérer avec plus de dignité vis-à-vis des autres, plus de préparation aussi, et je crois que là-dessus, il va falloir faire très, très attention pour Emmanuel Macron, à mon sens, parce que ça laisse des traces très importantes pour la campagne de la présidentielle de l'année prochaine, et en plus, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Là, on voit la lumière au bout du tunnel un peu, mais il peut se passer encore énormément de choses.
Ouais, c'est certain. Claudine, tu souhaitais réagir ?
Alors, j'ai lu récemment dans la presse que la région du Sud-Ouest, notamment le Pays Basque et les Landes, avait été assez épargnée par rapport au reste de la France. Je me suis demandé comment et pourquoi, comment ont-ils réussi, d'un point de vue sanitaire, à limiter les dégâts ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus ou de moins ? Voilà, je me suis posé la question parce que nous avons le même président, mais qu'est-ce qui a fait cette différence ? Pour moi, ça reste un mystère. Et l'autre question que je me suis posée, parce qu'on a eu énormément d'infos très différentes par rapport aux labos, qu'en est-il du lobby des labos ? Que s'est-il passé exactement ? Parce que on a eu des infos contraire régulièrement, c'est-à-dire que moi j'ai eu le sentiment que nous avons été baladés, on ne savait plus s'il fallait être vacciné ou pas, dans quelle tranche d'âge, est-ce que, par quel labo. Alors il y a eu des labos qui ont été, je pense à AstraZeneca, qui ont été retirés du marché, que s'est-il passé exactement, une gestion de pandémie, je n'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il y a forcément une raison financière qui pourrait expliquer tout cet embrouille à mini. Et ça n'a pas dû arranger nos affaires. Voilà où nous en sommes quand même. Et je trouve ça très peu respectueux des personnes. C'est-à-dire qu'énormément de personnes sont mortes. Autour de moi, j'en ai entendu parler des personnes handicapées qui n'ont pas été prioritaires. Voilà. Il y a eu un problème de... Il manquait des lits dans les hôpitaux parce que la case de l'hôpital a été orchestrée depuis des années, a commencé sous Sarkozy, il ne faut pas l'oublier, s'est accélérée sous Macron. Donc, est-ce qu'on prend vraiment... Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on prend vraiment soin des personnes dans ce pays ? Quand je vois le résultat en première ligne qui morfle, ce sont les femmes et les enfants, c'est toujours les mêmes. c'est juste plus possible. C'est juste plus possible, en fait. Voilà.
Oui, tout à fait. Tu as raison de rappeler ça, Claudine. C'est très important.
Je voulais juste ajouter que, pour rebondir sur les propos de Claudine en rapport aux soins, moi, j'espère que ça va ouvrir, en tout cas, sur un sujet majeur qui est justement comment on prend soin les uns des autres et comment on est plus en solidarité, et que ça fera partie du débat de la campagne de la présidentielle, parce que ce sont souvent ces thèmes-là qui sont confisqués, notamment l'éducation. Éducation, environnement et société arrivent toujours en queue de peloton dans les débats de la présidentielle, et je pense qu'il va falloir qu'on inverse un peu le conducteur de ces débats-là pour parler de sécurité, d'immigration, d'économie et de chômage au milieu, mais en tout cas qu'on remette, et surtout qu'on explique que toutes ces thématiques-là sont liées et qu'elles ne peuvent pas se faire les unes sans les autres.
Bien sûr.
Merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur vos points, vos éléments de réflexion sur cette thématique. Je vous propose de passer au second thème. On va parler de la tribune des généraux. Dans une tribune publiée sur le site de Valeurs Actuelles, les généraux à la retraite appellent à une réponse forte du gouvernement face à ce qu'ils décrivent comme le délitement du pays. Ces derniers parlent d'une France en péril, en proie aux hordes de banlieue et à la guerre raciale qu'ils décrivent. Face à cette situation, une seule réponse leur semble possible, c'est l'éradication de ces dangers avec une armée qui serait prête à soutenir les personnalités politiques engagées dans une démarche de sauvegarde de la nation. Si rien n'est fait, il promet une explosion avec une intervention de militaires dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. Signé par plus de 1000 militaires, ce texte abject a suscité de vives réactions dans le monde politique. Jean Castex a fustigé un texte en le qualifiant de « contraire à tous nos principes républicains, à l'honneur, au devoir de l'armée », dénonçant aussi des généraux qui ne représentent qu'eux-mêmes, une récupération aussi tout à fait inacceptable de la part de Marine Le Pen. Des sanctions ont été détaillées ce jeudi par le chef d'état-major des armées, François Lecointre, dans Le Parisien. Je souhaite que leur mise à la retraite d'office soit décidée. C'est une procédure exceptionnelle que nous lançons immédiatement à la demande de la ministre des Armées, a-t-il indiqué. Cette situation est particulièrement inquiétante, notamment au titre de la récupération politique par le Rassemblement national. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les réactions du gouvernement ont été suffisamment fermes? Et que faudrait-il faire pour lutter contre ce type d'appel à la haine? Elsa, est-ce que tu veux commencer sur cette question?
Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses dans ce sujet-là. Évidemment que la première chose à laquelle je pense, c'est que je me dis que c'est une destitution en bande organisée pour Emmanuel Macron aussi, parce que c'est intéressant de voir que ça part de généraux à la retraite, que c'est repris derrière par un journal qui lui aussi a des obédiences politiques très très extrémistes, donc ça fait une caisse de résonance évidemment supplémentaire, et en plus de ça, vous avez Marine Le Pen derrière qui offre un peu l'estocade finale en disant clairement qu'elle les soutient, en tout cas à demi-mot. La coïncidence des dates aussi, 21 avril, ça fait référence à des événements historiques en France, mais aussi 21 avril, c'est un deuxième tour d'une élection, enfin un premier tour d'une élection présidentielle en 2002. Donc on se souvient aussi de ça, il y a beaucoup de symboles. Alors après, je ne vais pas tomber non plus dans le côté, parce que ça c'est des complotistes, donc je voudrais éviter de tomber là-dedans. Cela dit, ça montre quand même plusieurs choses pour moi. Il y a déjà eu des événements de ce type-là où des militaires se sont opposés au pouvoir avec des thématiques extrêmement violentes d'appel à la haine, comme tu le dis très justement, Léa, mais ça n'avait pas pris autant. Pourquoi ? Parce que la période dans laquelle nous étions n'était pas une période de réseaux sociaux. Ça aussi, faut le prendre en compte. Ça veut dire que ça avait été quelque part neutralisé parce qu'il n'y avait pas eu cette caisse de résonance-là. Là, aujourd'hui, l'ère dans laquelle nous sommes nous oblige, en tout cas, à être dans ce temps médiatique, très fort et à appuyer sur ces boutons-là. Moi, je suis choquée, évidemment que je suis choquée, parce que je suis choquée pour deux choses. Je suis choquée parce que c'est pas comme ça que je percevais la grande muette, déjà c'est la première chose, mais je suis aussi choquée de la façon dont certains responsables politiques, et pas forcément Marine Le Pen, mais même au sein du gouvernement, ont considéré cette tribune-là en parlant de je sais plus, je crois que c'est Agnès Pannier-Runacher qui a dit que c'était des militaires en charentaise ou un truc du genre, donc je trouvais ça aussi d'une certaine violence, à l'image de la violence que ces militaires ont eue. Qu'est-ce que ça raconte en fait? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui fait que ces militaires à la retraite se sentent autorisés de dire de telles ignominies, de tels appels à la haine aujourd'hui, et qu'est-ce que ça raconte de nos médias qui font des caisses de résonance de ce type de choses? Moi, c'est ça qui m'interpelle, en fait. C'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il y a un jeu permanent de pyromanie, orchestré aussi au plus haut sommet de pouvoir politique. Et quand la question que tu poses, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter ce genre d'appel à la haine, je reviendrai sur notre premier thème. La question centrale, ça va être la solidarité aussi entre nous. Ça va être le commun. Est-ce qu'on a encore un commun, en fait? Et comment on reconstruit ce commun aussi autour de nous? Parce que là, on voit, il y a un mélange de genres absolument abominable, d'étrangers, tout ça en plus après des attentats qui ont de nouveau endeuillé la France. Donc il y a un amalgame permanent qui est fait et qui enjoint certaines personnalités qui n'ont peut-être pas forcément le recul nécessaire à choisir en fait un camp politique, tout ça à 18 mois d'une présidentielle. Donc c'est ça, moi, qui m'angoisse, c'est cette instrumentalisation permanente aussi de certaines choses et à se demander si les choses n'ont pas été effectivement fomentées dès le départ. Donc là, on a un vrai rôle, nous, parce que nous sommes des médias tous, hein, individuellement maintenant, hein. C'est pas que les journalistes qui sont des médias aussi aujourd'hui. Donc on a un vrai rôle aujourd'hui de monter en responsabilité et de monter en connaissance et en compétence de ce qu'on laisse dans ces réseaux, dans ce monde, de souscription aussi à ce genre de choses, et de les commenter, d'arrêter peut-être de les commenter entre guillemets, mais davantage d'essayer de comprendre la racine du problème et de parler de ces sujets-là. Parce que tant qu'on parlera des sujets type ces militaires qui font cette tribune-là, on ne parlera pas suffisamment de laïcité au quotidien dans les écoles, par exemple. On ne parlera pas des sujets fondamentaux dont on a besoin aujourd'hui d'entendre que ça se passe bien et que c'est 80% de ces choses-là qui se passent bien. Les médias nous envoient une représentation du monde qui n'est pas la réalité, sauf qu'elle devient une prophétie autoréalisatrice. Et moi, c'est ça qui me dérange aujourd'hui, beaucoup plus même que le fondement de la tribune de ces militaires. Donc, pardon, hein, je suis désolée, je suis un peu en colère sur ce genre de sujet parce que, en tant que journaliste, ça m'exaspère de voir que quelque part, il y a une complicité pour à dessein. Alors, est-ce que c'est à dessein politique? Quelque part, je trouverais ça presque plus noble que ce soit à dessein politique qu'à dessein économique, en fait, où je trouve ça pire si jamais c'est pour du mercantilisme ou faire de l'audience, ou etc. Je trouverais ça plus, encore plus cynique quelque part dans le monde. Mais y a voilà, le message que je veux faire passer, si jamais ce n'était pas clair auparavant, pardonnez-moi, c'est voilà, de s'interroger sur le rôle et la puissance des médias aujourd'hui, qui ne sont plus un contre-pouvoir, mais qui sont en train de favoriser l'accession au pouvoir de certains responsables politiques.
Alors ça, c'est très vrai, et c'est assez intéressant que tu abordes cette question qui est plus globale, hein, et qu'on pourrait, de manière générique, appliquer à d'autres thématiques et à d'autres polémiques. Claudine, tu voulais toi aussi réagir précisément sur le rôle de la presse dans cette affaire, appelons-la comme ça.
Oui, par exemple, LCI, en à peine 3 jours, ils ont fait 4 papiers au bas mot. C'est une liste non exhaustive, il y en a peut-être d'autres, sur le sujet. Alors, on a tribune de militaires, quelles sanctions encourent-ils? Qui trouve-t-on parmi les signataires de la tribune polémique de militaires adressée à Macron? Pour Thierry Mariani, les réactions à la tribune des généraux sont disproportionnées. Puis on trouve encore tribune, je vous dis les titres, hein. Tribune des militaires, 58% des Français soutiennent l'initiative des signataires. Et moi, je suis furieuse parce que c'est faire le lit, ce genre d'article. Je les ai lus, déjà les titres sont racoleurs, mais le contenu n'est pas mieux. Quand LCI indique en titre, 58% des Français soutiennent l'initiative des signataires, c'est faux, parce que dans l'article, nous avons... 58, au total, selon le sondage d'Harris Interactive, au total, 58% des personnes interrogées soutiennent les militaires ayant signé la tribune, selon notre sondage réalisé sur un échantillon de 1613 personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça n'est pas du journalisme. Pour moi, c'est vouloir peser et orienter la pensée. Pour moi, c'est ouvrir la voie et vouloir développer en France l'islamophobie. Pour moi, ces articles ne servent qu'à ça. Et ces articles sont parus sur LCI. Alors, il y a d'autres lieux où ça se passe. Hein. Tout à l'heure, vous parliez de Valeurs Actuelles. On sait qu'ils sont réputés, eux aussi, pour être très, très à droite. Je voudrais quand même rappeler qu'avant de paraître dans Valeurs Actuelles, la pétition, le texte a été publié sur un blog spécialisé qui s'appelle Place Armes, armes au pluriel. Et puis, il faut s'interroger également sur les signataires de ce texte qui quand même, quand on voit les profils, hein, on a des Saint-Cyriens, des militaires de carrière, des personnes proches de l'extrême droite, hein, notamment l'initiateur de l'appel, Jean-Pierre Fabre Bernadac, qui est un ancien officier de gendarmerie, également Christian Picmal, hein, l'une des principales signatures de l'appel, qui est ancien commandant de la Légion étrangère, ex-général de corps d'armée issu de Saint-Cyr, hein, qui a été d'ailleurs qui a été mis en cause pour avoir organisé d'ailleurs, ce fameux Christian Picmal, organisé en février 2016 une manifestation interdite contre les migrants et l'islamisation de l'Europe à Calais, aux côtés de l'organisation d'extrême droite Pegida. Alors mon analyse personnelle, c'est que je pense qu'on fait monter, la sauce en vue des présidentielles, et je pense que le public visé, ce sont les personnes qui sont d'obédience musulmane et qu'on est en train de développer l'islamophobie. Je trouve ça très très grave, très très grave. Et c'est peut-être le moment de relire un livre comme Matin brun de Franck Pavlov, qui explique, donc qui parle de la montée. De la montée du nazisme, moi ça me fait peur, ça me fait froid dans le dos, parce que je vois que la presse, beaucoup de titres de presse participent aussi à montrer des images d'un éventuel duo Macron-Le Pen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura peut-être d'autres surprises. Et puis, est-ce que les gens veulent voter à nouveau pour Macron? Ça n'est pas sûr du tout. Lui prétend, enfin, on entend qu'il va se représenter. Je trouve que la presse a un rôle très important, a toujours eu un rôle important. Mais pour moi, la presse, le journalisme, ça n'est pas de faire l'information, c'est de transmettre les informations. Ça n'est pas du tout la même chose. La presse ne doit pas peser dans la balance à ce point-là. C'est très, très dangereux. Moi, je suis très inquiète par rapport à ce qu'il se passe, et j'espère qu'on n'aura ni Macron ni Le Pen en duo, qu'on aura d'autres perspectives beaucoup plus humaines, beaucoup plus féministes et écoféministes. Je vous en reparlerai tout à l'heure.
Merci Claudine, je suis tout à fait d'accord avec toi, et tu as bien fait aussi d'insister sur l'aspect de polarisation des médias en France, qui est quand même assez inquiétant. Marie-Laure, je te laisse réagir sur cette question, s'il te plaît.
Oui, alors ce texte... pour moi, il est dual. Il est à la fois en apparence assez vague, il lance des grandes idées comme ça, et en réalité très référencé extrême droite. Et je pense que c'est ça qui explique ce sondage très très critiquable, hein, mais qu'en apparence, une grande partie des Français pourraient soutenir ce texte, etc. Je pense que pour des personnes qui se disent conservatrices, pas forcément d'extrême droite, qui n'ont pas forcément ces références-là, ils peuvent se dire, bah oui, c'est vrai qu'ils participent à dire des vérités que personne ne dit, que tout le monde dit tout bas, mais jamais tout haut, parce que politiquement correct, censure, etc. Voilà, je pense que vraiment, en apparence, il est très vague et il ne détaille rien. En réalité, quand on regarde de plus près les termes choisis, tu les as évoqués tout à l'heure, Léa, ça renvoie très très clairement à l'extrême droite, et notamment aux théories de Renaud Camus, aux thèmes défendus par Éric Zemmour, ainsi que évidemment le Rassemblement national. On parle donc de guerre raciale, de horde de banlieue, de valeurs civilisationnelles. Et en enrobant ça dans un peu des discussions de comptoir, quoi. En réalité, moi, je pense que les signataires n'ont rien laissé au hasard, quoi qu'ils peuvent en dire à titre individuel. Hein, ils disent qu'effectivement, au départ, ils n'avaient pas choisi Valeurs Actuelles, que c'est ce journal qui a repris leur tribune, etc. En réalité, ni la date de publication de la tribune, ni le vocabulaire employé n'est laissé au hasard. Je pense que le message qui est envoyé à Emmanuel Macron, il est très clair. Il vise à dire, nous on est là, on est nombreux et on est prêts à nous mobiliser. Et Je pense qu'ils font ça aussi parce qu'il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait donné une interview dans Valeurs Actuelles. En fait, c'est un peu une sorte de retour de bâton. Je ne sais pas très bien comment analyser ça, mais moi, je vois ça vraiment comme un retour de bâton où, en fait, l'extrême droite...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Traditionnelle, celle plutôt du père Le Pen, revient en force en disant on ne va pas te laisser venir sur nos terrains, c'est chasse gardée et c'est pour Marine Le Pen. Et en fait, cette tribune, par son côté très radical, je pense qu'elle participe aussi à banaliser le discours du Rassemblement national, c'est-à-dire... Et ça, c'est quelque chose qu'on voit partout, dans tous les médias. Certains intervenants vont avoir des positions extrêmement radicales. Et puis, comme ça, ça participe à instiller les thèmes de l'extrême droite dans le débat public un peu tous les jours. Et ça marche très bien. Et Claudine et Elsa, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Donc, je trouve que c'est très dangereux. Et puis, ça participe à faire apparaître Marine Le Pen comme finalement une personne plutôt modérée. Puisque, voilà, elle ne parlera pas de guerre raciale, elle ne parlera pas de horde de banlieue. Mais elle dira la même chose en des termes beaucoup plus policés. Donc, je partage votre inquiétude, je trouve ça extrêmement dangereux. L'objectif, pour moi, je pense que cette tribune, elle vise à créer un climat de peur et de mettre en avant les grades de généraux pour apparaître comme étant ceux qui savent. Parce qu'évidemment, nous, citoyennes, citoyens, habitants, nous, on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain, on ne sait pas ce qui se passe dans les quartiers populaires. Je pense qu'on le sait peut-être un peu plus que ces messieurs qui n'y ont jamais mis les pieds. Par ailleurs, ils parlent de sécurité, ils ont des inquiétudes par rapport au climat d'insécurité en France, etc. J'ai envie de dire, d'une part, la sécurité intérieure, en fait, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, ce n'est pas ce qu'ils ont connu, ça n'a pas été leur métier en tant que généraux. D'autre part, s'ils se préoccupent vraiment de la sécurité, moi j'aimerais bien les entendre sur les violences faites aux femmes par exemple, parce que ça touche en fait des centaines de milliers de femmes en France tous les ans, ça touche tout le monde au quotidien, et là comme par hasard on n'entend personne. Voilà. Donc pour finir, parce que je suis un petit peu longue et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, je pense que pour il faut qu'on reconstruise un climat de confiance en politique, et puis bien évidemment en tant que jeune élu, moi c'est une préoccupation qui est un peu le fil rouge de mon mandat, et pour moi ça passe par effectivement un besoin de sincérité et d'humilité de la part du gouvernement, mais aussi de tous les élus, y compris nous les élus locaux. C'est ce que tu mentionnais tout à l'heure Elsa, et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on a besoin aussi je pense d'avoir un soutien aux associations qui œuvrent, elles, sur le terrain, contre la haine, contre les discriminations, contre les inégalités. Et je pense que c'est vraiment par des mesures sociales d'importance qu'on arrivera à recréer un climat serein en France. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui se profile. On verra bien les débats qui se tiendront lors de la présidentielle. Mais c'est plutôt inquiétant.
Oui, tout à fait. Et je suis bien d'accord avec toi pour sortir de ce climat de haine. Encore faut-il. Ça manque de volonté politique, en fait. Il y a la volonté politique qui manque pour effectivement venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin, traiter en priorité les inégalités, quelles qu'elles soient. Et c'est certain que si on se concentre sur des espèces d'obsessions complètement justifiées, de vieux cathos, enfin c'est ça, hein, pas se mentir, c'est quand même très inquiétant. Et pour moi, c'est pas ça la France, enfin c'est pas ma France à moi, et ça me fait un peu flipper, pour être très honnête, que ces gens-là aient autant de visibilité. Et comme tu le disais aussi à très juste titre, tant Claudine, comme vous le disiez à très juste titre, Claudine et Elsa aussi, qu'ils aient autant de visibilité et que les médias fassent vraiment, jouent leur jeu en fait, c'est gravissime. Bien. On va peut-être passer à vos thèmes, si ça ne vous dérange pas. Claudine, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Alors, moi, on m'a fait parvenir un dessin qui résume pour moi exactement énormément de choses. Alors, je vais vous le montrer, mais voilà, ça ne se raconte pas là. Enfin, en fait, il y a une pyramide égo où on a un homme tout en haut, puis on a en dessous des animaux, la femme, etc. Donc, le système pyramidal très cher au patriarcat. Et à côté, on a un rond, c'est marqué écho. On a la femme avec les animaux au centre. En fait, pour moi, ça montre bien visuellement la différence de politique que nous pourrions avoir si une femme était présidente, par exemple. Parce que pour l'instant, depuis la Ve République, puis même ça remonte à beaucoup plus longtemps, nous n'avons pas encore eu de femme présidente. Donc, ce qui a attiré mon attention également, en complément de ce dessin, j'ai vu ça dans l'édition du Soir de Sud-Ouest du 23 avril dernier. C'est donc le professeur Philippe Menet, qui est chef de service en neurochirurgie au Centre hospitalier universitaire d'Angers, qui a travaillé sur le cerveau, qui a exploré ses moindres recoins. Et alors, je trouve, donc il détaille ça en cinq points. Dans le quatrième point, il dit que selon les études scientifiques menées depuis les années 60, il est avéré que les femmes sont meilleures pour la cognition sociale. Nous en parlions à l'instant. Donc, je poursuis. C'est une branche de la psychologie qui étudie les processus permettant aux gens de penser les individus, les groupes et les événements qui les entourent. Donc, elles arrivent mieux à vivre en société, à prendre des décisions pour le collectif. Elles sont plus douées pour la communication. J'ai trouvé ça très, très important. Parce que je me demande si c'est pour cette raison qu'on ne voit pas assez de femmes en politique, sous-entendu qu'on les empêche d'accéder à des positions plus importantes, le fameux plafond de verre qu'on remarque d'ailleurs un peu partout. Moi, je pense qu'en politique, nous manquons d'empathie, de social. Nous ne parlons pas assez de la situation des femmes, des enfants. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut être une femme ? Est-ce qu'il faut devenir présidente pour enfin arriver à faire des choses que d'autres hommes n'ont pas fait ? Et moi, je compte beaucoup sur la présidence de Sandrine Rousseau, qui est une économiste, donc qui sait de quoi elle parle, qui est depuis des années très sensible à la condition des femmes et des enfants. Je pense que ce monde, alors en France, je pense que nous avons besoin d'une personne comme elle. Et il est temps que les femmes prouvent leur dimension écoféministe. Parce que pour moi, l'avenir, pas d'un pays, de la planète entière, pour moi, la vraie révolution viendra par les écoféministes.
Merci beaucoup, Claudine. C'était très, très intéressant. Et moi, ça m'intéresse tout particulièrement parce que je suis en train de travailler sur un ouvrage sur la place des femmes en politique. Donc, je veux bien les références de tous ces éléments, s'il te plaît, pour y jeter un œil un peu plus précis. Et on salue aussi d'ailleurs Sandrine Rousseau qui interviendra bientôt sur Popol. ouais, bientôt au mois de fin mai de mémoire. Voilà.
Je t'enverrai par mail toutes les. Hein, je t'enverrai
volontiers.
Ça.
Merci beaucoup. Marie-Laure, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Alors moi, je voudrais vous parler du projet et de l'association qui s'appelle Composer, H-E-R, qui est née en 2018, pardon. Pour valoriser le travail des compositrices et réinscrire leur œuvre dans la grande histoire de la musique. Je pense que c'est essentiel parce que, voilà, aujourd'hui, si je vous dis Lili Boulanger, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, peut-être que ça vous dit quelque chose, mais moi, il y a quelques mois, je ne les connaissais pas, en fait, alors que j'ai passé. J'ai une formation de plus de 10 ans en conservatoire. Et quand j'étais plus jeune, jamais, en fait, mes profs m'en ont parlé. Donc, voilà, moi, je veux saluer ce travail-là et puis remercier cette association parce que je pense que c'est essentiel. En plus, ils mettent... beaucoup de ressources sur le site internet. Donc, j'invite toutes nos auditrices et auditeurs à aller le visiter. Vous aurez des conseils de playlist et il y en a notamment une qui me tient très à cœur, qui est une playlist 5 siècles de harpe. Moi, c'est mon instrument, donc forcément, c'est mon petit coup de cœur personnel et qui fait la part belle donc, à toutes ces compositrices. Et notamment Lily Boulanger qui, il faut le savoir, a été la première femme à recevoir le Grand Prix de Rome en 1913. C'est un peu la championne du monde de la composition, c'est une sacrée pionnière et voilà, je vous souhaite de belles découvertes musicales.
C'est génial, merci beaucoup Marie-Laure, c'est très très intéressant, effectivement, on va aller jeter un œil à tout ça, merci. Et enfin, Elsa, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît?
Je prenais plein de notes, Léa, de ce que Claudine et Marie-Laure disaient, justement, pour après aller regarder leur coup de cœur avec grande impatience. Je rebondirais juste sur un point de Claudine. C'est vrai que la gestion de la crise Covid illustre aussi que quand les femmes sont aux manettes, ça se passe un peu mieux. Donc ça, c'était un article du Monde qui était assez intéressant. Pour ma part, j'ai plutôt envie de partager avec vous un livre qui m'a transcendée récemment, alors, qui est écrit par un homme, hein, pardonnez-moi, mais je suis sûre qu'on pourra trouver la même chose dans quelques temps auprès de toi, Léa, qui justement travaille sur la place des femmes en politique. On courra acheter ton livre. C'est le courage de la nuance, donc ça ne vous étonnera pas trop au regard des deux thèmes dont on a parlé tout à l'heure et de mon propos. C'est Jean Birnbaum qui l'a écrit aux éditions du Seuil. Donc c'est un essai, mais c'est un essai assez génial parce que comme on est confronté à une accélération de la radicalité, hein, on en a parlé juste avant, le tenir bon et le penser contre soi, ça devient vraiment une épreuve d'effort aujourd'hui dans notre société, justement au prisme des réseaux sociaux. Et pourtant, Jean Birnbaum, il donne quelques conseils et il entremêle pour ça des grands penseurs de la nuance. Donc c'est une séquence assez magique et stimulante honnêtement qui pousse à relire Bernanos que moi j'ai découvert justement grâce au livre de Jean Birnbaum et puis de découvrir aussi un peu plus Barthes et Germaine Tillon parce qu'ils parlent des femmes aussi, notamment d'Hannah Arendt. Donc, je crois que notre patrimoine de la nuance, il est immense et qu'il faut qu'on s'assoie et qu'on s'appuie véritablement dessus dans les mois qui arrivent. Et je vous assure que passer une après-midi avec Arendt, Barthes, Camus, Aron, Bernanos, Orwell et Tillon, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonbon. Donc, personnellement, je demande officiellement à prendre la nationalité nuancée. Et je suis prête pour ça à continuer à penser contre moi, ce qui est aujourd'hui le plus difficile, que de céder justement à la panique et à la peur que régulièrement les réseaux sociaux nous envoient. Donc je vous recommande ce livre, Le courage de la nuance.
Merci beaucoup Elsa pour cette revue, enfin comment dire, cette fiche de lecture. C'est génial parce qu'il y a très souvent des intervenants dans Popol qui choisissent leur carte blanche pour en faire des fiches de lecture et je trouve ça assez utile et toujours très très intéressant. Je vous remercie beaucoup, merci à toutes les trois d'avoir participé à ce 25e épisode de Popol. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.